est blanche.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs.
Ils sont 40, 40 Next 40, mais on a élargi, vous le savez, depuis peu au FT 120. Et puis en fait, avec Olivier, on s'est dit, il y a trop d'entrepreneurs brillants dans la tech, pourquoi se limiter? Et dans le cadre de notre partenariat avec Vivatech, on a l'immense plaisir de retrouver l'une des cofondatrices de Virgile. Bonjour Saskia Fizel.
Bonjour Thomas.
Tu m'as demandé à quelle sauce je vais te manger. Alors, on sera trois pour préparer la cuisine aujourd'hui. Mon fameux compère Olivier Mathieu qui est avec nous.
Salut Thomas, salut Saskia.
Et notre fidèle partenaire avec Valérie Spies. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui.
Ma chère Saskia, un 40 nuances de Next quand Olivier est là, ça commence toujours par une intro d'enfer parce que Olivier travaille.
On y va. Ah,
je travaille pas, moi je suis un touriste. Je redescends de l'ascension du Mont Blanc où j'ai rencontré notre ami Julien qu'on avait interviewé au 40 nuances de Next sur e-Advise. Julien Rouette, donc voilà. 40 nuances de Next, c'est partout et à toutes les altitudes. Alors Saskia, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans ton podcast et on est ravis de te rencontrer et j'ai été moi très impressionné par la simplicité de votre modèle et le go-to-market, mais on va s'en reparler. Donc Virgile, c'est une plateforme pour aider les jeunes actifs à accéder à la propriété. Est-ce que c'est bien simplifié comme ça ou c'est comme ça qu'on le présenterait?
C'est parfait.
C'est que chaque mot-clé est important, sinon on va mal partir. Donc le prix de l'immobilier a fait x10 en 40 ans. Tu as dit ça à la presse, je n'ai pas vérifié les indicateurs, donc je cite ma source, c'est Saskia de Virgile. Le problème que tu as, tel que tu l'as formulé, c'est que 96% des jeunes actifs qui sont locataires souhaitent devenir propriétaires, mais seulement 82% d'entre eux, mais 82% d'entre eux, ce qui est énorme, se disent bloqués par une question de financement. Donc la solution qu'apporte Virgile, a priori, c'est l'apport, c'est l'idée d'apporter quelque chose, donc l'apport, le fameux apport qu'on connaît tous quand on est discuté avec un banquier pour débloquer le crédit. Donc l'idée, c'est de débloquer en fait cet accès au crédit qui permet l'accès à la propriété. Et puis je crois qu'en même temps, vous aidez aussi... Alors, je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais je reviens un peu dessus. C'est quand même intéressant de dire que l'apport que vous amenez, ça fait à peu près 10% du montant du bien. Alors, je ne sais pas si c'est un chiffre qui est toujours le même, et ça, tu nous l'expliqueras plus tard. Et ça correspond à 15% du logement. Donc, je pense que tu pourras nous expliquer.
C'est une moyenne, mais effectivement, ça varie.
D'accord. Et puis après, Virgile ne fait pas seulement ça. Après, vous assurez aussi quelques services pour faciliter ou, en gros, cet accès avec vérifier la cohérence du montant du bien. J'imagine, comme vous êtes partie prenante et de devenez copropriétaire du bien par l'apport, vous devez quand même vérifier que le prix au mètre carré est cohérent dans une tendance ou dans un quartier, etc. Également du courtage et de toutes les démarches qu'il peut y avoir, administratives et notamment notariales.
Bah voilà, on a fini le podcast, on sait tout sur Virgile.
Plus rien à dire.
Là, c'est la façon aimable que Thomas me dit que j'ai été trop long.
Merci. Non, c'est
c'était concis.
Mais je pense que tu as quand même envie de nous raconter plein de choses et peut-être de préciser 2-3 points.
Avec plaisir. Et non, pour rebondir, en fait, notre mission, elle est un peu plus large que ça. C'est l'indépendance financière de toute une génération. Et notre prisme, c'est de rétablir l'équité face à l'accès à la propriété. Le constat, tu l'as dit, Olivier, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible pour les jeunes actifs de devenir propriétaires dans les grandes villes où ils travaillent. Et c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce qu'aujourd'hui, quand on paye un loyer, on a 50% de ses revenus qui partent tous les mois chez son bailleur versus chez soi dans la construction de son patrimoine personnel. Et ce qui est grave là-dedans, c'est pas tant est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes locataire, est-ce que vous pouvez mettre des posters au mur, c'est est-ce que vous allez pouvoir en fait vraiment vous construire le levier de cette indépendance financière. Nous, on croit que c'est pas la richesse des parents qui doit déterminer le fait que vous soyez indépendant financièrement. Et aujourd'hui, la façon dont ça se traduit aujourd'hui, c'est une inégalité criante au moment de l'accès à la propriété, puisque ceux qui ont de l'apport familial peuvent se lancer, les autres se retrouvent en fait face à un marché où les prix ont énormément augmenté, où en plus l'actualité ne les aide pas puisque les taux ont aussi augmenté alors que les prix n'ont pas encore réellement baissé. Et face à ce mur-là, aujourd'hui, l'apport est devenu un vrai sujet, à la fois pour ceux qui n'ont pas nécessairement de l'apport familial, mais aussi pour ceux qui en ont. En fait, ils se retrouvent simplement avec un budget qui n'est pas suffisant. Et à un moment, on a le droit, quand on est jeune actif, quand on travaille, quand on a les moyens d'avoir un crédit, de pouvoir se dire qu'on n'est pas obligé d'aller acheter un appartement à 1h30 du lieu où on travaille, de ne pas pouvoir se payer une chambre d'enfant. Donc tout ça, en fait, c'est des choses auxquelles on répond avec Virgile à travers l'investissement et l'accompagnement.
Quand tu poses une mission aussi claire et aussi ambitieuse sur l'indépendance financière des jeunes actifs, l'accès à la propriété, c'est que la première brique.
C'est la première brique, c'est sûr, hein, ça peut être beaucoup plus large. Et d'ailleurs, nous, on fait de l'investissement aux côtés des jeunes actifs, mais on fait aussi beaucoup d'éducation. Il y a une idée d'empowerment financier, mais c'est surtout la plus impactante. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font autour de l'indépendance financière, et c'est bien, c'est quelque chose de super positif. Mais on dit souvent, en fait, aujourd'hui, chez un locataire, l'épargne, c'est 3% en fait, de ses revenus chaque mois. Donc, si on se concentre sur ces 3%, c'est chouette, mais en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est relativement limité en termes de construction financière. En revanche, si on permet à toute une génération d'économiser 50% de ses revenus, là, en fait, l'impact, il est éminemment différent et il est beaucoup plus impactant pour la construction de cette indépendance.
Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le modèle, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est à la fois le côté investissement au financement que tu proposes, mais en même temps, en fait, ce côté empowerment financier que tu viens de décrire. Et ce parcours, en fait, vraiment de conseil et d'accompagnement, je trouve qu'il lève énormément de freins. Parce qu'en fait, on peut aussi parfois en fait avoir un peu cette crainte hein, face à l'acquisition et aussi une méconnaissance parce qu'en fait, on n'apprend pas forcément dans le parcours éducatif aujourd'hui comment ça fonctionne ce type de financement et comment, en fin de compte, on gère correctement un patrimoine qui soit financier ou immobilier d'ailleurs.
Et c'est vrai, aujourd'hui, en fait, c'est une grosse partie de Virgile. En fait, donc Virgile, comment ça fonctionne? C'est un apport qui va jusqu'à 100 000 euros en plus de votre financement bancaire et une équipe, en fait, qui est là pour vous accompagner sur tout le parcours d'achat. Et tout le parcours d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi tout le moment où vous vous posez des questions, en fait. Tout le parcours, c'est un parcours du combattant aujourd'hui de devenir propriétaire pour les jeunes actifs. Et même le passage de « Ah, est-ce que je dois devenir propriétaire? Est-ce que je peux devenir propriétaire ?» Mais même pas mal d'autres questions financières qui vont venir entourer celle-ci. Donc on a à la fois Virgile, on a en plus développé, parce qu'on avait tellement de demandes, en fait, on n'arrivait plus à y répondre en one-to-one à nos acquéreurs, un média qui s'appelle Spoon sur l'indépendance financière et qui parle en fait vraiment d'éducation financière au sens large. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 60 000 abonnés qui nous lisent deux fois par mois. Il y a un engouement, une demande de conseils qui soient justement pas des conseils commerciaux, mais simplement des conseils de bon sens.
Et de quoi on parle?
Par exemple, vous avez gagné un bonus. Qu'est-ce que vous en faites? Tout le monde parle de crypto, ok, mais en fait, comment ça fonctionne? Est-ce que crypto, PEA, assurance vie, est-ce que économiquement ça a du sens de passer freelance? Combien ça coûte vraiment d'avoir des enfants? Globalement, des sujets financiers au sens large, avec l'idée d'avoir une réponse qui ne soit pas une réponse d'avocat. J'ai rien contre les avocats, mais oh, vous pouvez faire A ou vous pouvez faire B. C'est vraiment, on essaie d'avoir une thèse et d'expliquer comment ça marche.
Est-ce que je peux te demander comment vous gagnez votre vie?
Bien sûr.
Très transparent.
C'est une très bonne question.
C'est quand même un des sujets pour les jeunes, les moins jeunes, entre les courtiers, les machins, on paye plein de choses sans très bien savoir finalement le coût total des services des intermédiaires.
Oui, on a un modèle qui est super simple. Donc nous, tu l'as dit, en moyenne, on investit en moyenne 10% du prix du bien. En échange de ça, on va détenir 15% de l'appartement dès en fait vraiment l'achat. Et nous, on va se rémunérer à la fois sur toute la partie accompagnement. Donc, on fait à la fois le courtage, mais surtout, en fait, toute la partie où on valide le bien, on s'occupe des démarches notariales, on t'obtient le financement dans ton intégralité, on dit que t'achètes au bon prix. Donc, tout ça, ça va être facturé. C'est 3000 euros d'honoraires. Et par ailleurs, on a cette fameuse détention sur laquelle on va se rémunérer au moment de la revente du bien dans un délai de 10 ans.
Et le délai de 10 ans, il est fixe?
Le délai de 10 ans, il est maximum.
C'est la durée du crédit. C'est maximum 10 ans, c'est ça?
Non, le crédit, c'est un crédit normal. Donc, en fait, généralement sur 25 ans.
30, ouais.
Ouais, voilà, c'est 25. Court.
Alors, pourquoi 10 ans?
Bah, parce qu'en fait, nos clients, c'est quand même majoritairement des primo, secondo, accédants. Aujourd'hui, la moyenne de détention, si tu regardes en France, c'est à peu près 5 ans et demi. Sur les gens qui font appel à Virgile, généralement, il reste plutôt 5-6 ans. Enfin, nos premières ventes, nos premiers achats, co-investissements, ils ont eu lieu il y a 3 ans. Et là, en fait, il y a les premières reventes. Donc, ça commence à 3 ans, tu as un pic autour de 6 ans. Et au bout de 10 ans, en fait, tu as un peu une queue de portefeuille.
Par contre, il faut pas mal de trésors.
Il faut pas mal de trésors. Ouais.
Parce que ça, faut se projeter sur la durée. Je comprends aussi le principe de la clientèle jeune actif qui est amené à bouger, pas peut-être à faire sa vie dans un bien. Si jamais il souhaite rester dans le bien au-delà de 10 ans, c'est quoi? Il y a un deal pour racheter en fait vos.
En fait, déjà, enfin, la clientèle, hein, les jeunes actifs, c'est pas à cause de ces 10 ans. C'est on a créé le modèle parce que justement, c'est les jeunes actifs qui ont besoin de nous. Et évidemment, à 10 ans, en fait, si tu souhaites rester dans ton appartement, tu peux, tu rachètes la part de Virgile à ce moment-là. Donc, il y a toutes les configurations sont possibles. L'idée, c'est vraiment de te propulser et de te dire, on te met le pied à l'étrier. Vraiment, on te fait cette espèce de courte échelle vers l'accès à la propriété. Et ensuite, toi, tu fais ce que tu veux. On est un co-investisseur, on est complètement dormant. Donc en fait, c'est ta vie, ton appart, tu vends quand tu veux. Tu repeins tes murs en rose si tu veux. On ne dort pas dans la cuisine. On est un copropriétaire dormant.
Donc j'ai trouvé l'approche à la fois bienveillante, avec un modèle économique clair et en plus une vraie mission, une vision, enfin une mission-vision qui accompagne humainement les jeunes. Tu disais aussi que finalement, les jeunes veulent devenir propriétaires. Je ne sais pas d'où venait cette étude, parce qu'on a le sentiment aussi que peut-être la jeunesse insouciante, c'est-à-dire je n'ai pas envie d'avoir de fil à la patte, je ne sais pas, je vais beaucoup bouger. Finalement, pourquoi devenir propriétaire? Donc est-ce que c'est une fausse idée qu'on a de la jeunesse? Ou est-ce que finalement, parce qu'après, c'est plutôt les parents qui disent tu devrais acheter de la pierre, c'est important la pierre.
Peut-être de jeunesse.
C'est intéressant parce qu'on nous a beaucoup posé la question au tout début, en fait, quand Virgile n'était encore qu'une idée. Et c'est intéressant parce que je pense que plus personne aujourd'hui peut douter du fait que les jeunes veulent devenir propriétaires. Tu l'entends partout, tu le vois partout. Là, en ce moment, c'est de plus en plus difficile. Ça n'arrête pas d'être plus difficile. Et pourtant, il y a toute une génération qui essaye désespérément de passer ce cap-là. Et pas pour des raisons en fait de principe, simplement parce qu'elle a bien compris que être locataire c'est un esclavage, que c'est un fil à la patte, et donc il y a cette espèce d'idée un peu à la mode, mais je pense qu'il est honnêtement de moins en moins, de les jeunes sont des slasheurs en fait, ils veulent louer leur appart sur Airbnb, louer leur téléphone, louer leur voiture, et en fait il y a toute cette économie du leasing. Bah, ils ont raison en fait de le faire sur leur bien de consommation, parce que dès que tu as acheté ton portable ou dès que tu as acheté ta voiture, sa valeur en fait elle décroît. Le seul sujet en fait sur lequel, une fois que tu as acheté ton bien, la valeur elle décroît pas, c'est pas une valeur d'usage, c'est ta propriété, c'est ton appartement. Et donc je pense qu'il faut s'éloigner de cette idée que les jeunes n'ont pas compris en fait aussi comment ça fonctionnait. Ils veulent devenir propriétaires, simplement ils ont tellement plus d'obstacles que les générations d'avant face à l'accès à la propriété que il y a eu un moment en fait de découragement. Et c'est aussi ça la raison d'être de Virgile, c'est devenu un parcours du combattant. Ça l'est beaucoup moins grâce à Virgile et grâce à l'idée qu'aujourd'hui je pense qu'on a pris la mesure du fait que les primo-accédants sont hyper importants et pourtant assez empêchés dans leur accès à la propriété, mais non, effectivement, en tout cas nous on le voit dans nos chiffres, c'est pas un principe.
Et est-ce que, alors je passe sur un sujet un peu différent, mais parce que finalement ici c'est Viva Technologies, on est dans la fête de la French Tech, 40 millions de Next, on parle de start-up, d'innovation, et je me demandais en quoi vous êtes innovant.
Bah, c'est une super question.
En termes technologiques, parce que je vais te laisser répondre en question un peu ouverte, mais je préciserai si c'est nécessaire.
C'est une super question, et déjà je vais commencer avant l'innovation technologique. Enfin, ça dépend ce que tu appelles l'innovation technologique, mais en fait nous on est une innovation fondamentale. À la base de Virgile, il y a l'idée de se dire c'est pas une innovation incrémentale. On va pas juste faire mieux quelque chose qui existe déjà.
Non, j'ai trouvé l'idée d'ailleurs très forte, et je l'ai dit dès le départ. Du coup, c'est très bien que tu répondes comme ça. Ouais. Et c'est une très bonne façon, mais de ne pas contourner la question.
Ouais. Non, et je vais
sur
pas
la partie technologique ou innovation, et c'est pas. On peut être.
Et je ne vais pas contourner la question sur la partie justement technologique. Il y a en fait un truc qui est super important, c'est qu'aujourd'hui, tu fais ton parcours d'achat En fait, bah, tu vas avoir ton agence, tu vas avoir ton courtier, tu vas avoir ton notaire, tu as plein d'intermédiaires. C'est hyper painful, c'est long, c'est compliqué. Alors que c'est quand même, je le rappelle, le moment où tu dépenses le plus d'argent dans ta vie. À quel autre moment, en fait, tu vas t'acheter un truc à 500 000 euros, hein, parce que c'est ce qu'il faut pour s'acheter un 40 mètres carrés à Paris. A priori, bah, peut-être plus tard, quand tu auras gagné beaucoup d'argent, parce que déjà, tu auras construit ton indépendance financière, ou que tu auras construit une boîte extraordinaire. Mais
ça chez Neuflize.
Voilà, exactement. Mais a priori, à ce stade-là, donc, tu fais la plus grosse transaction financière de ta vie et ton parcours, il est dégueulasse. Nous, toute l'innovation en fait, technologique chez Virgile, elle est de se dire tu as un seul interlocuteur, un seul espace et en fait, pendant tout ton parcours, tu vas avoir une fluidité qui va faire que tu as un seul point de contact qui va avoir accès à ton dossier en deux secondes, qui va te faire passer toutes les étapes du financement, qui va t'éviter d'avoir 50 interlocuteurs. Et l'innovation technologique, je dirais qu'elle est interne à notre parcours pour avoir un parcours beaucoup plus fluide.
J'avais une question sur, en fait, tu as raison, tu as dit tout à l'heure que l'actualité était assez brûlante sur les taux. On l'a vu encore hier avec encore une augmentation des taux de la BCE. Donc ça a un impact direct sur les demandes que tu vois aujourd'hui ou sur la complexité que tu peux avoir dans tes dossiers?
Bien sûr, ça a un impact direct. En fait, on prenait l'exemple au début de Virgile de aujourd'hui, entre ce qu'un locataire peut louer en termes de surface et un acquéreur peut acheter, tu as une différence de surface de 26%. Ça, c'est...
Dans quel sens ?
Ce que tu peux acheter est 26% plus petit que ce que tu peux louer. Ça, c'est globalement quand on a lancé Virgile. Là, en fait, il y a un calcul assez simple à faire, assez grosso modo. À chaque fois que les taux prennent 1%, tu perds 10% de capacité d'emprunt. Donc, quand les taux sont passés de 1%, ce qu'ils étaient, le niveau auquel ils étaient il y a à peu près un an et demi, à 4%, le niveau vers lequel ils sont en train de se diriger, bah, tu perds 30% de capacité d'emprunt. Donc ta capacité de financement, mécaniquement, quand tu es jeune actif, en fait, tu empruntes la majorité de ton achat, bah, elle a baissé de 30% en un an et demi, alors que derrière, effectivement, bah, les prix n'ont pas encore réellement baissé. Donc ils sont vraiment impactés. Puis par ailleurs, en fait, c'est de plus en plus difficile pour les banques de prêter, donc elles restreignent de plus en plus aussi l'accès au crédit. Donc il faut avoir des dossiers qui sont de plus en plus nickel, au cordeau. Et donc toute la partie accompagnement justement qu'on fait, elle sert aussi à ça, c'est de se dire comment tu fais pour avoir un dossier gagnant au moment où tu te lances.
Qu'est-ce qu'il a fallu craquer au début ? Parce que tu as parlé d'une grosse innovation dans l'approche. J'imagine que même d'un point de vue juridique, c'était peut-être pas simple d'investir aux côtés de simples particuliers.
Je te confirme. Oui, je te confirme. Non, c'est ce qui est intéressant, c'est nous, on dit souvent, on a passé un an et demi en sous-marin, en fait, avant de vraiment lancer Virgile, faire les premières ventes, pour construire l'infrastructure juridique, technique, ce qu'on appelle nos barrières à l'entrée. Déjà, la première barrière, hein, elle est simple. Hein, c'est qu'au début, tout le monde te dit, effectivement, maintenant, les jeunes, ils préfèrent rester locataires. Bon, effectivement, quand tu te creuses, tu te rends compte que c'est pas vrai. C'est simplement qu'ils n'arrivent plus à devenir propriétaires. Ensuite, tu as l'architecture du modèle, tout simplement. Mais surtout, et ça, c'est, je pense, quelque chose que rencontrent aujourd'hui beaucoup de startups qui se lancent et qui se lancent dans des milieux qui ne sont pas nécessairement disruptés, c'est que, attention, nous, on importe une grosse innovation, mais on n'est pas seul, on est partenaire des banques. Aujourd'hui, quand tu achètes avec Virgile, quand tu achètes et que tu es primo-accédant, une énorme partie de ton financement, c'est le financement bancaire. Donc, il a aussi fallu s'insérer dans cet écosystème-là. Même si les banques sont à leur échelle extrêmement innovantes, elles peuvent mettre parfois un tout petit peu de temps à bouger. Il faut se dire qu'il faut pouvoir rentrer la case Virgile dans la case apport d'une infrastructure bancaire qui a des guichets partout en France. Ça, c'est des choses qu'il a fallu craquer petit à petit.
Si je dis pas de bêtises, même après avoir levé beaucoup d'argent, les banques ne suivaient pas tout de suite. Vous êtes même dit, si je dis pas de bêtises, on va racheter une banque.
Ouais. Donc on a levé de l'argent rapidement parce que, donc pour la petite histoire, mon associé et moi, donc Evan, mon cofondateur, avant Virgile, on avait déjà monté une entreprise ensemble, dont lui était député CEO. Moi, je faisais simplement partie des premiers salariés.
Vendu à Accor.
Et donc, on a eu rapidement pu lever de l'argent au début de Virgile. Donc, on était là avec notre argent, mais on n'avait pas de partenaire bancaire et on a eu toute cette période-là à craquer cette partie-là, mais d'autres aussi. Et un des trucs que je racontais à Thomas quand on préparait l'épisode, c'est qu'à un moment, quand on n'était pas sûr de comment y arriver, un de nos investisseurs nous avait dit de façon assez encourageante, non mais si ça marche pas, c'est pas grave, vous allez juste racheter une banque. Et ce point-là nous avait fait simplement changer de posture en disant, bah oui, au pire, on fera ça. Bon, la réalité, c'est que finalement, on a conclu des partenaires bancaires avec des partenariats bancaires avec des super partenaires et qu'aujourd'hui, les banques veulent toutes travailler avec nous. Mais ça nous a fait changer de posture à l'époque. Donc, c'était il y a 4 ans.
Tu parlais des autres sujets qu'il a fallu craquer. Nous, on aime bien revenir au début parce qu'on a des entrepreneurs qui nous suivent, qui se lancent. Moi, qui, comme tous les entrepreneurs, font face à plein de murs, qui sautent par-dessus la plupart du temps. Mais c'est toujours intéressant de partager ça.
Bah, je pense que ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a un double modèle. En fait, on a un modèle de société, je dirais, classique, là, dans celle qui nous côtoie à Vivatech, avec une société opérationnelle qui accompagne les jeunes actifs, qui lève des fonds auprès de VC. Ça, c'est un modèle assez classique. Et puis, par ailleurs, en fait, on a quand même une activité où notre métier, c'est d'acheter et de revendre des appartements. Donc, on mélange un espèce de monde très digital, très tech, à un monde qui... a pu l'être un peu moins. On a ces deux activités en une, on a un côté très bicéphale et ça c'est hyper intéressant, mais c'est un vrai challenge au quotidien.
Quand tu dis bicéphale, c'est quoi les deux? Il y a donc la tech et...
Et la partie vraiment activité achat-revente d'un appartement, quoi.
Et alors, parce qu'il y a pas, j'aurais pensé qu'il y avait une troisième tête, disons un tricéphale, qui aurait été autour du métier purement financier.
Il y a un métier qui est plus d'éducation, de médias, ce qu'on a avec Spoon. Mais en fait, tu as vraiment un métier accompagnement, un métier acquisition-revente d'appartement et un métier éducation.
J'ai vu qu'au moment de la levée de fonds, vous étiez 27. Je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui.
On est 27.
27, d'accord. Et donc, quels sont les métiers, alors sans rentrer dans les schémas des grandes fonctions, mais vraiment concrètement, que font les 27 personnes dans une start-up comme Virgile?
Bah, ce qui est intéressant, je pense, par rapport à d'autres startups, c'est que nous, on a une énorme équipe qui s'appelle les spécialistes. Et les spécialistes, c'est vraiment ceux qui accompagnent nos acquéreurs. Et en fait, ces spécialistes-là, ils vont être ton point de contact à partir du moment où tu commences ta première simulation jusqu'au moment où tu as les clés de chez toi, tu sors de chez le notaire et tu débouches le champagne. Ils vont t'accompagner à travers toutes les étapes. Donc, il y a à la fois une partie extrêmement, finalement, sales, hein, pédagogie, parce qu'on éduque à un nouveau produit, confiance, éducation financière aussi à ce moment-là, hein, parce que c'est une transaction, notre funnel de vente, il ressemble presque à un funnel de vente B2B complexe. On a une vente longue, on explique globalement, on fait beaucoup de simulations, comment ça fonctionne, etc. Mais tu as aussi un côté chez ces gens-là qui sont très CSM aussi, parce que c'est un parcours long, hein, un parcours d'achat. Rien que la partie de la promesse de vente à l'acte de vente, tu as presque 3 mois. Tu as la recherche du financement. Donc ces gens-là, ils sont aussi courtiers, ils vont aller chercher ton financement, ils pilotent tes démarches notariales. Donc tu as toute cette partie-là, en fait, qui est une équipe hyper importante chez Virgile et qui prend une grosse partie de nos effectifs, qui est clé parce que, en fait, c'est aussi elle qui génère la confiance. C'est aussi elle, en fait, qui fait que tu es content d'aller chez Virgile, pas seulement pour l'investissement, pas seulement pour l'éducation, mais parce que tu sais que tu vas être pris en main et accompagné sur tout le parcours. Donc ça, c'est la plus grosse équipe. Après, tu as des activités d'investissement, tu as des activités legal, tu as des activités d'acquisition, marketing, et tu as des activités de médias avec Spoon.
Est-ce qu'il y a des objections? Parce qu'il y a l'idée qu'on se fait des jeunes, mais eux-mêmes, ces jeunes, quand ils veulent acheter et qu'ils rencontrent Virgile, est-ce que malgré tout, il y a des objections qui vous sont faites?
Je pense que la première, et ça fait un peu nier en fait, de dire ça, mais en fait, ça fait un peu trop beau pour être vrai. Et donc, où est le loup? Où est le piège? Et c'est toujours intéressant, en fait, du coup, de redéballer le modèle, redéballer en fait l'historique, pourquoi on a fait ça, comment ça marche, comment ça va se passer à la revente. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas de produit magique. Il faut accepter en fait d'être assez transparente dans ton éducation, dans comment t'expliques ton produit. Et il faut aussi dire très tôt, de façon très transparente, on n'est pas le bon produit pour toi. Nous, on n'a aucun intérêt.
Qu'est-ce qui fait que vous ne serez pas le bon produit?
Typiquement, si tu penses que dans un an, en fait, tu vas déménager parce que tu veux aller à New York, que ton rêve c'est d'aller à New York et que tu veux que ta boîte elle t'envoie là-bas, en fait, avec les frais de notaire, rester propriétaire pour un an, Bah, généralement...
Après, tu peux louer.
Ouais, bien sûr, tu peux louer. Mais c'est généralement un peu de complexité par derrière. En gros, si tu veux pas te compliquer la vie, on te dit, concrètement, si tu sais que en fait, tu vas partir dans un an de cet appartement, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Plein d'autres situations, mais nous, on investit dans des zones urbaines tendues. Si t'es en train d'acheter ta maison familiale dans la Creuse, dans laquelle t'as envie de mettre ton Labrador, ta Renault Espace et tes quatre enfants, on n'est pas nécessairement en fait la meilleure solution. On le dit tout de suite aussi. Attention, on sort au bout de 10 ans maximum, donc nécessairement en fait, t'es plutôt primo, secondo, accédant. Un truc qui est important aussi, c'est on fait que de la résidence principale, on fait pas d'investissement locatif. Nous, on est là pour aider en fait les jeunes actifs à construire justement ce parcours-là vers l'indépendance financière, pas pour, et je mets des guillemets, aider les vieux rentiers à créer encore plus de rentes.
Non, mais pourquoi ? Enfin, je trouve que c'est une réponse un peu caricaturale de parler des vieux rentiers, parce qu'on pourrait être aussi jeune et vouloir faire un investissement locatif.
Ouais, on peut.
Donc, pourquoi est-ce que, en dehors de la vision qui est l'accès, le primo accès à la, est-ce qu'il y a une autre raison économique qui fait que c'est pas intéressant de travailler sur les résidences locatives, etc., une résidence secondaire ou...
En fait, tu as deux visions, et les deux sont hyper importantes. Tu as une vision de principe de base, je pense qu'il ne faut pas être cynique en fait, dans la façon dont on fait les choses. À un moment, quand tu dis que c'est ta mission et quand tu te dis que tu veux mettre le pied à l'étrier de plein de jeunes pour construire leur indépendance financière et que tu penses que la propriété, pour eux, de leur appart, c'est le truc fondamental. Bah, quand tu te mets à faire de l'investissement locatif, à un moment, quelque part, tu sors en fait ce sujet-là. Et par ailleurs, sur un côté économique, tu as aussi le côté simplement, aujourd'hui, en fait, quand tu investis aux côtés de jeunes actifs propriétaires, tu sais que en fait, quand tu es propriétaire de ton appart, tu le gères infiniment mieux que quand tu es locataire. L'image qu'on prend souvent, c'est qui lave sa voiture de location. Qu'est-ce qui se passe avec ton portable en leasing quand il tombe dans l'eau. Et donc en fait, globalement, quand tu es un propriétaire occupant, tu gères nettement mieux ton appart que quand tu es un locataire.
Vous, à 10 ans, vous sortez au prix du marché à 10 ans ou au prix d'un...
Oui, au prix du marché.
Et est-ce que donc
il y a aussi le risque que ça descende, que vous prenez avec le propriétaire.
En fait, le fait qu'on investisse en pourcentage, c'est une logique aussi de... quand vous gagnez,
c'est de solidarité, de partage des risques et des gains.
Exactement. Et donc c'est aussi pour ça, et ça c'est un point super important, parce qu'on parlait d'objection tout à l'heure, il y en a une que j'ai pas citée. En fait, quand vous gagnez, on gagne. Quand vous perdez, on perd avec vous. Et évidemment, notre but c'est de perdre le moins possible, et c'est que vous perdiez le moins possible. Et donc il y a une objection qu'on avait en fait en tête au début, c'est que nous on valide tous les apparts dans lesquels on co-investit. Parce que si tu achètes un souplex aveugle à 15 000 euros du mètre, a priori, tu n'es pas en train de faire un bon investissement. Et il y a peu de gens qui le font, mais parfois, quand le marché est vraiment trop fou, en fait, les gens se disent « Ah si, si, en fait, c'est ça, il faut que j'y aille. » Et c'est bien d'avoir Virgile qui te tape sur l'épaule et qui te dit « Non, non, en fait, il ne faut pas que tu y ailles.
Bah, » Tu peux y aller, mais nous, on n'ira pas.
On n'ira pas. Et c'est marrant parce que quand on a construit le produit, quand on a construit Virgile, on s'était dit « Ah, ça, pfff, est-ce que ça ne va pas être une vraie objection de la part de nos acquéreurs de devoir en fait, se farcir Virgile sur ton épaule qui dit « Ah, cet appart, oui, non, ok ». Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça s'est complètement transformé et retourné. En fait, les gens viennent nous voir. Aujourd'hui, tu as des gens qui font appel à Virgile, même sans la partie investissement, pour toute la partie accompagnement, parce qu'en en fait, il y a tout le parcours et il y a le « Devez-vous acheter ou pas cet appart ?».
Moi, je trouve que c'est un alignement d'intérêt qui me semble extrêmement intéressant. Je suis d'accord, ça s'approche vraiment, enfin, tu es vraiment inclus ça dans l'approche conseil. Moi, j'avais une question justement par rapport aux localisations et à la géographie. Tu as parlé majoritairement en fait là un peu de Paris ou de villes tendues. Où est-ce qu'en fait vous êtes sur le territoire un peu national et est-ce que vous avez regardé un peu ces concepts-là en dehors de France ?
En fait, le modèle qu'on a, c'est vraiment de se dire il faut aider les gens à acheter là où ils ont du mal à le faire. Et bah, ça, en fait, traditionnellement, c'est juste les zones tendues, donc les zones où il y a plein de gens qui veulent travailler et pas beaucoup de logements disponibles pour devenir propriétaire. Donc bah, ça fait un modèle de grande ville, de zone urbaine. Aujourd'hui, on est à Paris et Première Couronne. Et ce qu'on annonce très prochainement, c'est notre expansion géographique dans pas mal de villes de France. Parce que, en fait, le besoin se fait...
Comme tu vas l'annoncer très prochainement, tu peux peut-être le dire là.
Bah, je reviendrai. Je reviendrai.
J'ai tendu la perche pourtant, Thomas.
Ouais.
Je reviendrai.
Laisse-moi jouer. Allez, je dis Lyon, Marseille, Bordeaux.
Là, on sait toutes les villes où Thomas a envie d'aller.
On peut en rajouter quelques-unes.
Tu peux mettre Belle-Île alors aussi, mais je ne pense pas que vous investissiez.
Je ne sais pas si on ira à Belle-Île. J'aimerais bien.
Ce que je te propose, c'est de répondre à cette question qui t'est posée.
Vous avez un message.
Salut Saskia, c'est Flare. Écoute, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Chez Virgile, évidemment, il y a beaucoup le sujet de l'indépendance financière. Et puis, il y a ce média que tu as lancé il y a 3 ans, Spoon, dans lequel tu parles de finances personnelles. L'argent, c'est quand même un grand tabou français et tu as trouvé une façon d'en parler beaucoup et de façon intelligente. Mais ma question aujourd'hui, c'est plutôt de te demander, Saskia, selon toi, c'est quoi la chose que l'argent ne peut pas acheter ?
Et déjà, merci à Fleur, donc Fleur qui travaille chez Virgile pour cette super question. Il y a plein de façons de répondre à celle-là. Déjà, on y répond, je pense, en long, en large, en travers avec Spoon, en expliquant que l'argent, pour nous, c'est vraiment un moyen et pas une fin. Si j'y réponds un peu plus émotionnellement et intuitivement, je crois que le truc que l'argent ne peut pas acheter, c'est le fait d'être quelqu'un de bien. En fait, ça peut t'acheter plein de trucs. En tout cas, ça peut t'aider à être en meilleure santé, avoir une meilleure éducation, avoir plus de temps. Ça t'achète le temps et ça t'achète la liberté. Et c'est pour ça, en fait, pour nous que on parle d'indépendance financière. En fait, moi, je m'en fiche que les jeunes deviennent riches. J'ai envie que les jeunes soient libres. Et je pense que c'est ça, en fait, ton premier levier aujourd'hui, c'est de pas te retrouver contraint par ce sujet-là. Mais le truc que l'argent n'achète pas, en fait, c'est ton intégrité, ta substance, est-ce que quelque part tu cherches à bien faire.
Alors pour une fois, on a une start-up qui s'adresse à la première fois quand même.
Oui, complètement, premier achat. J'ai changé un peu le jeu, je fais première ou dernière selon ce qui nous semble le plus pertinent.
Un peu tricheur, mais ok.
Ouais, mais des fois ça s'y prête mieux. Tu parlais de ne pas se travestir. J'y vais comme ça, premier travestissement.
Je précise que j'ai pas eu les questions en avance, hein, donc il me faut un peu de temps pour préparer. C'est marrant parce qu'on en parlait juste avant. Mais il y a un truc quand tu es entrepreneur, et je pense encore plus quand tu es une entrepreneur femme, jeune, et que tu te retrouves en fait souvent dans un milieu où... le milieu de la tech, on sait, est de plus en plus féminin, mais pas encore totalement. Virgile, c'est un milieu aussi très financier et immobilier. J'ai souvent pu avoir la tentation, dans les premières années de Virgile... de bomber le torse très fort, d'élargir les épaules pour me sentir légitime dans les réunions dans lesquelles j'étais. Et ça, en fait, c'est une sorte de travestissement parce que finalement, j'aurais pu y aller en étant juste Saskia. Et j'ai fait Saskia les gros bras pour me sentir à la hauteur de l'événement.
Dernière nuit blanche.
Alors, cette question pour moi, elle est terrible, mais c'est genre avant-hier. Enfin, je dors très peu. C'est un vrai sujet, ça fait marrer toute mon équipe. J'arrive une fois sur deux avec les yeux collés. Et c'est pas un truc qui s'arrange avec l'entrepreneuriat, mais c'est pas seulement. Ça n'a pas commencé avec Virgile. Et je pense qu'après, c'est effectivement. Je sais plus qui avait dit ça, mais en fait, quand tu es entrepreneur, tu dors comme un bébé. Ça veut dire que tu te réveilles toutes les 2 heures en hurlant et en demandant ta mère.
Premier succès pour Virgile, le moment où tu t'es dit
ça prend.
Yes.
Il y en a, enfin c'est comme chaque boîte, t'as quelques jalons. Moi, ceux dont je me souviens très fort, c'est un premier recrue, Tom, qui est toujours chez nous, que je salue.
Salut Tom.
Qui est formidable. Deux, premier acquéreur, bouteille de champagne collective au bureau, à la fois collective, on était 3.
Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez?
Non, pas du tout. Et tous nos, en fait. Et alors c'est marrant parce que ça, on a un peu la dynamique inverse, je pense, de plein de boîtes. On a été vachement surpris au début. C'était plutôt pas des gens qui nous connaissaient. En fait, tous nos premiers acquéreurs. Aujourd'hui, dans nos acquéreurs, il y a très peu de gens qu'on connaît personnellement. Et moi, j'avais un espèce de principe qui dit, et mon associé aussi, c'est mieux quand même quand tu peux te sentir à l'aise de vendre ton produit à tes amis. Et c'est aussi bien quand dans tes investisseurs, il y a des gens que tu connais et que tu vas avoir toute ta vie parce que ça t'oblige à pas faire n'importe quoi avec leur argent et toi pas faire n'importe quoi avec ce que tu vends. Donc aujourd'hui dans les acquéreurs Virgile, j'ai des amis et c'est une très très bonne nouvelle, mais c'est arrivé plus tard et donc on l'a pas construit du tout là-dessus, même si et ça je raconte souvent le moment le premier jour pour moi d'existence de Virgile, c'est celui où j'envoie un email à 150 de mes potes en leur disant « Hey, je fais ça et je sais que tu cherches à devenir propriétaire et alors ça n'existe pas du tout et rien n'est construit, mais appelle-moi. »
Dernière connerie.
Il y en a plein. Il y en a tellement. Et on m'a fait récemment remarquer, j'étais en off-site il y a une semaine avec mon équipe et on fait un déjeuner où on demande à chacun en tant que CEO, si t'étais CEO maintenant, qu'est-ce que tu changerais,
et il y a quelqu'un, pas comme exercice,
ouais franchement c'est vachement bien, et il y a énormément de choses où tu sais tu l'as dans un coin de ta tête et tu te dis ça on pourrait faire mieux, et quand t'as trois personnes de ton équipe qui te le dit, en fait tu te dis ah effectivement probablement qu'on peut faire mieux. Mais on avait aussi récemment changé de bureau et donc on est tout content parce que c'est des beaux bureaux, on est chouette, on est bien installé, et j'ai commandé des jolies chaises pour tout le bureau, beige, tout le monde est hyper mal assis, a mal au dos, on peut plus, donc je dois tout changer, et en fait c'est mini comme connerie, mais en fait quand on a plein qui s'amoncellent, tu te dis aussi mon rôle c'est quand même de... Quand on me demande c'est quoi mon rôle, en fait en tant que dirigeant, je dis que les gens en fait soient contents de venir au bureau, qu'ils aient envie de se défoncer et qu'ils soient payés à la fin du mois. Quand ils vont chez l'ostéo tous les deux jours parce qu'ils sont mal assis, parce que j'ai mal commandé les chaises.
Premier renoncement.
Tu peux pas tout faire en fait. T'es obligé de choisir. À un moment, on est une espèce de toute petite équipe hyper concentrée en train de se dire de façon justement assez ambitieuse qu'on va changer la façon dont les gens construisent leur patrimoine financier, dont les jeunes actifs deviennent propriétaires. C'est déjà énorme. C'est un chantier de dingue. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. Et on se fait beaucoup contacter pour dire « Ah, mais vous voudriez pas faire ça pour les bureaux, pour les investissements locatifs, pour les maisons de retraite, pour les pharmacies. Ou vous voudriez pas étendre votre gamme de services. Vous voudriez pas aller dans cette ville. En fait, il y a plein de trucs qu'on veut faire. Choisir, c'est renoncer.
Parce que c'est notre projet !
Avec Valérie et Olivier, on a choisi, nous, de te donner les pleins pouvoirs pour faire ce que tu veux de notre pays.
Ok. Le congé PAT obligatoire à 2 mois, avec l'idée de se dire qu'aujourd'hui déjà on est passé à 1 mois, on a l'impression que c'est fantastique et moi je trouve qu'on est extrêmement en retard en fait sur le sujet. Ça me pose une vraie question.
Pourquoi obligatoire ?
Parce que si c'est pas obligatoire, les gens le prennent pas. En fait, c'est un vrai schéma de les mentalités sont plus longues à changer si la loi ne contraint pas, et on le voit d'ailleurs sur tout. Enfin, on le voit sur le droit des femmes, on le voit sur le droit du travail, on le voit sur le droit au mariage gay, c'est un super exemple de ça. En fait, à un moment, la loi précède le changement, et notamment en fait sur le droit du travail, c'est super difficile d'attendre en fait des entreprises qu'elles changent tant que ça n'est pas imposé, parce que financièrement.
Donc, tu veux dire qu'il faut le rendre obligatoire parce que les gens ne le prennent pas, parce que les entreprises ne veulent pas que les gens les prennent, ou qu'ils présupposent, ils se censurent, ou c'est parce que si les gens n'ont pas envie et qu'on les force à prendre 2 mois, c'est-à-dire que tu supposes qu'a priori c'est pas qu'ils en ont pas envie, c'est qu'ils se sentent obligés de pas le prendre.
Mais en fait, t'as un sujet assez fort quand même de financement. Enfin, à un moment, quand tu te dis si je le prends pas, en fait, ma boîte, elle va pas avoir à me le payer non plus. Enfin, il y a quand même ce sujet-là, il est pas neutre. Et en fait, s'il y a ce côté de, en fait, c'est légal. Si tu pars en congé paternité, en fait, ta boîte, elle te finance comme si tu étais en congé maternité. Il n'y a plus, en fait, de sortie possible ou de je le prendrai plus tard. Donc, les gens, enfin, ma présupposition, c'est que les gens ont très envie de le prendre, mais simplement, c'est pas rentré dans les mœurs parce que c'est pas un truc genre logique, classique. Et tu vois dans les pays, en fait, qui l'ont mis en place, que les gens le prennent.
L'idée qu'il y a derrière, c'est quoi ? C'est aussi moins de différence, finalement, entre les hommes et les femmes dans l'entreprise au regard de l'employeur.
En fait, enfin, mon combat avec Virgile, c'est l'empowerment. L'empowerment, c'est global. Hein. Ouais. Donc, c'est de se dire, on rétablit quand même l'égalité des chances, la méritocratie. Une fois que tu as dit ça, globalement, comment tu donnes à tout le monde les mêmes chances? C'est pareil en termes de richesse, mais c'est pareil en termes de genre. Qu'est-ce qui fait que quand tu es une femme, un moment dans ta carrière pour avoir des enfants, tu t'arrêtes 3, 4 mois et en fait, toi, tu es le père du même enfant? Et tu t'arrêtes un mois. En fait, ça va changer ta trajectoire de carrière. Et moi, j'aimerais bien pouvoir me dire, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir pour un job, j'ai aucune présupposition en fonction de l'âge de la personne de « Ah, attends, en fait, est-ce que peut-être que cette personne qui est fantastique en face de moi, je dois réfléchir à peut-être que je vais la perdre pendant 4 mois ?» Enfin, moi, j'ai 34 ans, j'ai pas encore d'enfant. Alors, j'ai de la chance, je suis à la tête de ma propre entreprise. Mais je me dis « Ah, si, en fait, demain, j'allais postuler, je sais très bien, en fait, que... » Parce que moi, évidemment, en fait, on l'a tous ce présupposé-là. Et en fait, j'aimerais me dire que je me pose pas la question. Et après, je pense que pour une société équilibrée, au-delà, en fait, juste de l'entreprise... Une société équilibrée, c'est une société où, en fait, t'as pas de traitement de base juridique différent si t'es un homme ou une femme.
Donc tout ça, c'est basé du point de vue de la carrière, pas du point de vue de la famille ou des enfants. C'est un regard vraiment sur la carrière et le frein potentiel qui est lié à la bifurcation que tu évoquais tout à l'heure, c'est le mot que tu employais.
Non, c'est plus large, en fait, c'est sociétal. Et la carrière est un élément extrêmement fort de la société. Le fait, en fait, que ton parcours soit différencié dans ta vie parce que tu es un homme ou une femme, oui, en fait, ta carrière, c'est un des gros leviers, mais c'est aussi un enjeu sociétal, un moment, en fait, de mettre par défaut les femmes dans des rôles de mère qui restent au foyer pour s'occuper de leur enfant et pas les pères dans cette situation-là, c'est aussi un sujet sociétal.
Tu peux avoir un impact sur la pression sociale, en fait. Tu veux essayer, en fait, de faire changer un petit peu aussi la perspective et la façon dont tu vois ce rôle.
Je suis d'accord. Il y a cette pression sociale. On n'a pas le temps d'en parler là, mais c'est toujours des débats intéressants parce que chaque fois qu'on en parle, j'essaie de détecter l'idéologie qu'il y a derrière de la personne, sachant que je sais que j'ai aussi une idéologie. Je ne l'ai pas forcément formulée comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire que...
Toi, Olivier, président.
Non, pas du tout. C'est comme les questions sur le genre, des débats que j'ai beaucoup avec mes enfants, etc. C'est la question qui se pose derrière, c'est voilà, est-ce que une femme qui aurait envie de rester 4 mois en congé maternité, est-ce qu'elle a vraiment envie ou est-ce que c'est la pression sociale aussi qui l'a mis dans cette position et qu'une bonne mère, il ne faut pas qu'elle parte trop vite s'éloigner de son enfant. Et donc ça rejoint un débat plus large qui est aussi le rapport à la carrière, mais aussi le rapport du père à l'enfant et de l'enfant au père et de la mère à l'enfant et de l'enfant, etc., etc. Mais aussi à l'intérieur du couple, de l'équilibre économique qui se passe au sein d'un couple même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions, je pense, derrière. Et je présuppose que tu as peut-être une idéologie, mais je ne sais pas laquelle. Et moi, j'en ai sûrement une. Et donc, c'est des débats qui sont assez
Moi, j'ai une idéologie d'égalité, en fait. Et je pense que, en fait, la loi doit t'aider à parvenir à cette égalité-là. Et en fait, ce que tu veux, toi, ta pression sociale, etc., en fait, tu la gères comme tu veux. En revanche, en fait, il ne peut pas y avoir de différence de traitement légal parce qu'ensuite, ça va... entraîner énormément de choses qui deviennent des usages alors que à la base en fait enfin qu'est-ce qui te dit si t'es super en forme que t'as accouché et c'est pas du tout le cas de tout le monde hein, donc c'est super que t'aies des congés longs pour ceux
ce que je voulais dire c'est que le principe d'égalité ouais. On rentre dans le dur le principe d'égalité bah oui il existe et j'ai même écrit un livre là-dessus au moment où je posais la question de l'entrepreneur et qui s'appelle la gauche a mal à son entreprise mais peut-être qu'il faut aussi regarder du point de vue de l'enfant en fait peut-être que ou alors il faudrait peut-être que du coup
c'est intéressant mais ça veut dire que du point de vue de l'enfant ce serait mieux qu'il y ait la mère
peut-être.
Qui soit là ou pas. Mais...
Peut-être, j'ai pas lu d'études là-dessus, donc je me pose la question.
Mais moi non plus, je sais pas.
Voilà, mais du coup, comme on sait pas tous les deux, peut-être non. Il faudrait que cette idée de congé... Non, mais je trouve que ça serait génial, j'adorerais avoir 4 mois de congé paternité. Peut-être que si, ça doit peut-être... il faudrait pouvoir le prendre peut-être à d'autres moments dans la vie, pas forcément à la naissance.
Et si tu sais pas...
Pourquoi pas ?
Si tu sais pas, qu'est-ce qui te fait présupposer qu'il faut que, en fait, ce soit la mère qui ait un congé plus long à la naissance ?
C'est pour ça que j'ai dit peut-être.
Mais,
je ne présuppose pas. Mais je trouve que ça serait intéressant de réfléchir sur une période longue, pas forcément.
La loi, aujourd'hui, elle répond en fait, à ce peut-être. Elle dit le contraire. Elle présuppose.
Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord de challenger la loi. Ouais. Mais la réponse que tu apportes, c'est peut-être une autre idéologie qui s'oppose à une ancienne idéologie. Et je me demande s'il ne faudrait pas donner beaucoup plus de flexibilité, pas seulement de l'égalité, c'est peut-être le mot qui me gêne, et d'aller vers de la flexibilité pour que, justement, dans une période de start-up, tu dises, tiens, moi, mes quatre mois, je les prendrai quand mon gamin aura 2 ans.
Alors, complètement d'accord avec toi pour plus de flexibilité.
Parce que le moment de la carrière aussi et le moment de l'enfance, c'est des moments différents. Peut-être qu'il faut arriver à les désynchroniser pour aider.
T'as totalement raison. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que tu peux avoir cette flexibilité-là, mais il n'y a pas de raison qu'elle soit différenciée en fonction de ton sexe. Donc, tu peux avoir un congé maternité ou un congé paternité à des moments différents. Mais à quel moment, en fait, genre, la loi t'impose de dire parce que tu es un homme ou parce que tu es une femme, tu vas le prendre à tel moment. Tu peux dire qu'il y a plus de flexibilité non, mais c'est, au global.
En fait, plus basiquement, je pensais qu'il y a aussi des femmes qui nourrissent leurs enfants.
En tout cas, Saskia, moi, ce que
ça,
je
c'est
pense,
plutôt
c'est
au
que
début de la vie.
Mais Olivier, il doit être Premier ministre, ça, c'est sûr. Hein.
Non.
Je vais te le dire. Hein. Bon,
non, moi, j'ai des idées qui sont révolutionnaires. Donc,
En tout cas, moi, j'ai découvert à la crèche, on m'a dit que... Il fallait l'odeur de la mère sur le doudou. Je leur ai demandé pourquoi ça calmait plus que l'odeur du père. Et c'était un présupposé. Il y a plein d'études sur l'odeur de la mère, rien sur l'odeur du père.
Et c'est des usages, en fait.
Exactement. Je vous propose de poursuivre. Tu voulais parler de la levée, Olivier?
J'aurais trouvé intéressant, parce qu'on parle justement d'égalité homme-femme, de voir comment toi tu as ressenti ça. Alors ça peut être dans le cadre de la levée de fonds, dans le cadre du management, du recrutement. Et puis dans des... En fait, il y a plein de milieux dont on dit ouais, c'est vachement machiste. Par exemple, le milieu de la finance, le milieu de l'immobilier, etc. Et donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, tu le ressens? Ou est-ce que tu as pu aussi... est-ce qu'il y a, au-delà des questions d'égalité, des différences du fait que tu es une entrepreneuse ou entrepreneur qui ont fait que ça t'a aussi aidé? Ou est-ce que c'est que des inconvénients dans un monde...
Je ne sais pas si c'est un milieu machiste ou des milieux machistes. En tout cas, c'est des milieux qui sont majoritairement, ça on sait, masculins. Donc, il y a quand même un sujet de représentation et un sujet d'identification. Et il y avait Tatiana Jama qui était, je crois, hier ou avant-hier, avec Emmanuel Macron sur Sista à Vivatech. Moi, c'est des initiatives que je salue parce que le sujet, pour moi, c'est plus, en fait, comment t'améliores simplement, la répartition de la représentativité. Et pour en revenir à mon cas personnel, nous, on est un duo de cofondateurs. Donc mon associé Kevin, qui est formidable et que je salue, non seulement c'est un homme, mais en plus il a 10 ans de plus que moi, je vois à quel point il y a une énorme force dans ce duo-là et à quel point ça aussi permet de générer une sorte de parité assez forte au sein de la boîte, qui d'ailleurs, sans qu'on l'ait jamais pensé et qu'on n'a pas nécessairement provoqué, il y a plein de gens qui me disent « je suis désespérée à l'idée de recruter plus de femmes ». Bon, bah, nous, en fait, on n'a pas pensé, c'est juste arrivé comme ça. Et je pense que la représentativité...
C'est lié au fait que c'est une équipe dirigeante mixte.
Ouais, la représentativité a un rôle énorme. Quand on est une femme et qu'on voit une femme dans une équipe dirigeante, bah, on y va plus spontanément. C'est pareil, en fait, dans les billets d'investissement, on en parle beaucoup. Bah, en fait, tu vas plus spontanément quand t'es une VC femme investir dans des dirigeants de femmes. Donc ça, c'est plutôt une histoire de biais de représentation qu'on a tous malgré nous. Est-ce que c'est plus difficile d'être une femme? Je sais pas si c'est plus difficile, mais en tout cas, c'est différent. Et je pense que tu dois effectivement un peu plus faire les gros bras, un peu plus convaincre que tu as ta place.
Est-ce qu'il y a des avantages aussi? C'est une vraie question que je me suis souvent posée. C'est parce qu'on peut dire, parfois c'est peut-être plus facile pour convaincre ou pour d'autres.
Je suis dans le podcast. Est-ce que si j'avais été un homme, je serais pas dans le podcast? C'est une vraie question. J'en sais rien.
Bah oui aussi.
Vraie question.
Est-ce qu'il y a des avantages?
Voilà. Oui.
On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais vous avez levé 20 millions, 10 auprès de VC, qu'on peut peut-être citer d'ailleurs, et 10 en IMO. Où est-ce que vous en êtes du cash? Est-ce que vous partez pour un second tour?
C'est une très bonne question, et surtout au vu du moment, je pense que les gens te disaient un peu cash is king, comme ça sans conviction, mais maintenant ils ont assez compris que cash is king.
C'est la
Nous, on a des super investisseurs que je salue, et notamment Alven, Local Globe, Kima, GFC. On a levé du coup deux tours parce qu'on a vu un seed et une série A, et on va bien, merci. Donc on n'est pas en levée sur la partie VC. En revanche, sur la partie IMO, on a levé effectivement 10 millions sur la partie VC, 10 millions sur la partie IMO. Sur la partie IMO, on a levé donc ces 10 millions. Là, on lève 20 millions cette année et on lève entre 50 et 100 millions sur les deux années suivantes. Donc ça, c'est la levée permanente, quoi.
Et c'est pas le même type de levée, ça se passe pas de la même manière?
En fait, c'est de l'investissement qui sert à financer vraiment cette activité, en fait, d'achat, revente d'appartements. Donc, c'est de l'investissement qui va directement dans les appartements. Et donc, c'est pas du tout les mêmes investisseurs, pas les mêmes rendements et pas la même thèse non plus. Hein. Il y a aussi de se dire, j'investis dans l'immobilier parce que c'est un actif, c'est un actif résidentiel hyper recherché, c'est un actif résilient. c'est un actif rentable. Et en plus, je le fais en participant au fait de se dire que bah, j'aide à la fois des jeunes actifs. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il y a un côté...
Tu remets du sens en plus.
Il y a un côté sens, mais il y a aussi un côté qui n'est pas seulement genre « Oh, les jeunes actifs », c'est aussi un côté vision de la ville. En fait, quand tu permets à une ville d'appartenir à ses propriétaires, tu freines aussi le fait de se dire que les murs de grandes villes sont détenus par des grands fonds de pension, des grands investisseurs parfois étrangers. Et parce qu'il y a aussi ça, en fait, au bout du chemin. Aujourd'hui, dans les villes où tu as de moins en moins de propriétaires occupants, en fait, les murs sont détenus par des grands fonds de pension, notamment des fonds de pension qui servent à financer les retraites des fonctionnaires américains. Et quand ta production de richesse, en fait, elle va dans le fait de financer la retraite des fonctionnaires américains, c'est peut-être pas en fait le meilleur usage de ton investissement, et donc tu as aussi cette participation-là.
Qui investit aujourd'hui dans ces fonds IMO ? Tu dis que ce ne sont pas les mêmes investisseurs ?
C'est des investisseurs IMO, des family office, des entrepreneurs.
Et qui voient en fin de compte le risque sous-jacent comme étant un risque marché immobilier en fait ?
Exactement, et qui se diversifient en ayant une partie de leur portefeuille en immobilier. Et là, c'est l'immobilier en plus résidentiel, donc très recherché. Donc c'est un actif qui a beaucoup de qualité.
Avec une méthode de sélection en plus que tu as mis en place et qui doit, à mon avis, beaucoup les inciter à aller vers
exactement.
Alors moi, j'avais une dernière question. Je m'excuse que je vais devoir vous laisser ensuite parce qu'à Vivatech, il se passe plein de choses et on a plein d'autres micros attrapés partout. Mais j'avais une question, alors un peu poil à gratter, mais plutôt dans le sens de la vision et de la mission. Parce que bon, j'aime beaucoup la mission, je trouve que le produit, le go-to-market et le product market fit, enfin, tout est vraiment très bien articulé, et vraiment bravo pour ça.
Merci.
Et je me demandais si on réfléchissait à la mission de Virgile au sens un peu plus large, donc en revenant plutôt à la mission davantage qu'au modèle et à la solution, est-ce que vous avez pensé à aider à l'accès à la propriété à d'autres types de populations ? Par exemple, parce qu'on parlait des hommes et des femmes, l'égalité, ben, je sais qu'il y a des modèles économiques économique mais avec impact social et inclusion, par exemple femmes seules avec enfants,
ouais.
Ou alors
il y a connu les réfugiés. Le co-living qui est fondé par Tara,
ouais, c'est ça.
Et c'est super,
ouais.
On la salue.
Il y a l'aspect co-living aussi pour les personnes âgées avec réfugiés ou avec étudiants, etc. Est-ce qu'il y a d'autres approches qui peuvent être dans la mission de Virgile, si on essaie d'oublier comment on gagne de l'argent, etc. On revient juste avec la mission, empowerment, tu l'as dit, accès, etc. L'argent c'est pour la liberté, du coup D'autres populations qui mériteraient, mais peut-être ça ne marcherait pas sur le plan économique.
Non, en fait, aujourd'hui, si tu veux, c'est ouvert à tous. Enfin, si on a majoritairement des primos, des secondo-accédants qui font appel à nous, c'est parce que c'est ceux qui ont le plus besoin de notre approche. Mais si tu regardes en fait, le span des acquéreurs Virgile, et c'est ça moi, que j'adore dans notre métier aussi, c'est que tu vas vraiment le soignant, l'instituteur en tout début de carrière qui va acheter à Montreuil, bon, au neurochirurgien qui achète dans le centre de Paris, tu vas avoir des gens qui sont très jeunes, tu vas avoir des gens qui sont moins jeunes, sans enfants, pas d'enfants, t'as pas en fait juste, attention, on fait du CSP plus intramuros, donc il y a cette idée de c'est ouvert à tous à partir du moment aujourd'hui où tu peux avoir un crédit, parce que ça c'est important, c'est que tu veux pas mettre des gens en fragilité, et t'as ce vrai sujet de impose pas des mensualités et un crédit à des gens qui ont déjà vachement de mal à joindre les deux bouts. Donc il y a cette question là dans l'accès à la propriété, il y a la question en fait de la soutenabilité aussi d'un emprunt. Mais donc oui, bien sûr, tu élargis le plus possible, mais tu mets pas en danger des gens qui sont déjà en galère.
Ça m'amène une question, les 15% dans lesquels vous investissez, ça leur permet de prendre plus grand ou au final d'accéder à ce qui...
Tu tapes dans le cœur de Virgile, en fait, les deux. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu compliqué et c'est devenu cher. Donc, en fait, un, tu veux accéder au crédit, mais deux, tu veux pas renoncer à ta terrasse ou tu veux pas renoncer à ta chambre d'enfant ou même à tes toilettes, quoi. À un moment, en fait, quand tu dis 100 000 euros, c'est 10 mètres carrés à Paris. Si tu t'éloignes de Paris ou si tu vas dans les autres grandes villes où on va aller, c'est ta chambre, ton salon. Et ça, en fait, ça change la donne, donc ça te permet d'acheter plus grand.
On va saluer Olivier qui file. Valérie, tu restes avec moi ?
Oui, je reste avec toi.
Saskia aussi, j'espère.
Avec plaisir.
Je ne sais pas comment j'aurais fait sinon. À très vite.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ?
On entame la phase plus personnelle de 40 nuances de Next pour essayer de comprendre la petite fille que tu étais et... qui va expliquer la femme que tu es devenue.
Ce programme.
D'où tu viens ? Qu'est-ce qui t'a construit ?
Ouais, c'est vaste. Hein. On se disait au début, c'est un peu la psychothérapie, en fait.
Tu peux t'allonger, fermer les yeux.
Je sais pas, je pense que bah, t'es le produit de... d'une éducation de basique. Moi, mes gros piliers, c'est... on en parlait tout à l'heure, c'est important d'essayer d'être quelqu'un de bien et c'est important de bien faire les choses.
Moi, j'ai entendu beaucoup de quêtes de justice dans toutes tes prises de parole, aussi dans ce qu'est Virgile. Et je me demandais s'il y avait des choses tirées de la vie, tu vois, qui peuvent l'expliquer plus profondément.
Je sais pas, en fait, sur la partie, tu vois, Virgile, il y a deux gros sujets, en fait, quand tu regardes. Il y a la partie, accès à l'immobilier, mais pourquoi, en fait, donc question un peu égalité des chances, mais aussi comment tu brises, on disait souvent, on brise le plafond de pierre. Et en fait, tu as ce côté méritocratie. Et on rigole souvent avec mon associé en disant qu'on a fondé une boîte d'immigrés. Mais il y a un peu de ça dans notre histoire personnelle à tous les deux, même si c'est des immigrations différentes. Il y a l'idée de se dire, en fait, t'arrives quelque part, t'es déraciné, t'as pas de moyens. Comment, en fait, tu construis? Et il y a deux chemins. Le premier, c'est éducation et donc méritocratie. Et ce côté presque intuitif de l'accès à la propriété, en fait, dès que tu gagnes de l'argent, t'achètes un chez toi parce que en fait c'est une façon pour toi de t'attacher à la terre et donc le fond du sujet pour nous chez Virgile c'est aussi un peu ça, c'est que nous on a grandi alors dans des environnements différents mais avec un peu ce truc de tu te poses même pas la question en fait de devenir propriétaire ou pas, enfin en fait
il te faut un chez toi,
c'est intégré que dès que tu gagnes de l'argent en fait tu paieras jamais un loyer, quelle absurdité et un en fait parce que c'est absurde de perdre de l'argent et deux parce que c'est chez toi, on pourra pas te déloger.
Tu parlais de deux immigrations différentes avec ton associé. Tu viens d'où ?
Alors moi, j'ai des grands-parents qui sont des juifs polonais qui sont arrivés en France juste après la Deuxième Guerre mondiale et donc qui parlaient français avec un accent polonais. Et mon associé est iranien, né aux États-Unis, ce qui rajoute un peu de fun à... Enfin, maintenant, il est français, non ? Mais ça rajoute un peu de fun à nos histoires.
Mais t'as gardé de tes grands-parents, du coup, ce sujet d'immigration, de besoin de faire sa place ici ?
Et je pense qu'il y a un vrai truc de... on t'a accueilli. C'est quand même une immigration où, quelque part, la France était un peu le pays qui voulait bien t'accueillir, quoi, quelque part. Donc, tu rends. Tu rends au pays qui t'a accueilli. Et donc, moi, j'ai quand même été vachement éduquée là-dedans. Le fondement, en fait, de la carrière de mon père, c'était l'intérêt général. Comment tu sers l'intérêt général? Moi, ça m'a beaucoup modelée. En revanche, donc, moi, j'ai fait Sciences Po parce que j'avais envie... d'aller servir l'intérêt général derrière. En revanche, j'ai abandonné devant l'idée de partir en pré-péna et je me suis rendu compte que en fait c'était pas ça le chemin pour moi pour l'intérêt général. Mais du coup, en repartant ensuite en école de commerce et en me disant ok, comment tu t'insères dans un monde capitaliste, mais comment tu sers l'intérêt général? En fait, Virgile est pour moi la meilleure réponse en fait à ça.
Quelque part, si je me permets, en fait, tu as trouvé la voie avec l'impact. Ce que tu fais aujourd'hui, ça a un impact quand même assez fort, donc on le ressent et on voit aussi hein, beaucoup d'entrepreneurs qui ont un peu, je trouve, ton parcours, aller chercher cette voie de l'impact qui en plus résonne, je trouve, au niveau des investisseurs aujourd'hui. Donc il y a quand même un cercle, ou en tout cas une tendance assez vertueuse et le sentiment que j'ai, c'est que ça s'inscrit assez fortement dans ce que tu essaies de faire aujourd'hui.
Et c'est très juste et en fait c'est marrant parce qu'on nous a beaucoup expliqué que c'était pas totalement de l'impact parce qu'en fait c'était très financier et on n'est pas une ONG, on gagne de l'argent et pour moi il y a un vrai sujet sur réconcilier en fait impact et croissance et comment en fait tu changes aussi un système en le changeant de l'intérieur. Pas du tout pour dire que les gens qui bossent dans des ONG ne font pas un boulot absolument extraordinaire, mais on a choisi une voie différente.
Disons que tu sers aussi du monde financier pour accélérer en fait cet effet d'impact.
Exactement.
À quel moment, est-ce que déjà petite fille, tu projetais ce sentiment d'entrepreneuriat, de liberté, de faire par soi-même, de décider ?
Je sais pas. Enfin, en fait, j'avais jamais formulé le sujet d'entrepreneuriat avant de le rencontrer par hasard dans ma vie professionnelle. Donc, je me visualisais pas du tout comme ça. En revanche, effectivement, il y avait un sujet d'autonomie et de liberté assez forte, qui est une valeur importante chez moi. Je pense que l'idée, c'est aussi de se dire, de questionner en fait très tôt pourquoi on fait les choses. On parlait tout à l'heure d'usage, en fait. Qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui a du sens parce qu'on l'a construit comme tel ou parce que c'est légitime, et comment tu questionnes ça. Et j'ai le souvenir d'avoir toujours eu ce questionnement-là. Et c'est marrant parce que j'ai un petit frère qui est entrepreneur aussi, que je salue, Ruben. Et qui,
c'est quoi
il fait une boîte de vraiment d'ingénieurs purs et durs, donc je le laisserai venir raconter
à son équipe. C'est lui de pitcher.
Voilà. Mais il est ingénieur et en fait je pense que tu retrouves chez les ingénieurs ce schéma de pensée là assez spontanément tu questionnes et j'ai l'impression qu'on l'a tous les deux assez naturellement, donc ça vient probablement de notre éducation et de notre enfance.
Moi j'avais une petite question, tout à l'heure tu parlais de la Saskia à gros bras et ça m'amusait beaucoup, alors je reviens là-dessus parce que j'avais envie de te poser une question là-dessus. C'est aujourd'hui sur des entrepreneurs qui t'écoutent, femmes ou autres, hein, on est aussi dans un sujet de diversité et d'inclusion globale. Est-ce que en fait tu dirais à ces personnes-là, bah, venez avec le côté gros bras, ou au contraire en fait, bah, il faut lâcher le sujet et il faut plutôt en fait y aller comme on est aujourd'hui. Toi, avec le recul sur cette Saskia.
Et cette question, elle est difficile parce que j'ai envie de dire la deuxième option, viens comme tu es, ne lâche rien. Et d'ailleurs, quand je vois des entrepreneurs, hommes et femmes, hein, d'ailleurs, qui sont vraiment hyper détendus avec ce qu'ils sont, avec d'où ils viennent, qui prennent aucune posture, je suis toujours sidérée d'admiration. Après, je pense effectivement que quand tu es jeune, en début de carrière, et que tu arrives dans des milieux où il faut t'imposer, c'est aussi normal en fait de te faire un peu ce petit charabia mental avant d'y aller à chaque fois, en disant souviens-toi que t'es pas là par hasard.
Très clair.
Je sais pas si c'est lié au fait d'être un homme ou d'être une femme, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont le sentiment qu'ils doivent prouver des choses. Ce sentiment même parfois d'imposteur dont on parle, même si on est là où on doit être.
Bah, permanent. Et, enfin, je sais pas, moi, je crois qu'il n'y a que les cons qui ne doutent pas. c'est la ligne est toujours un peu ténue entre être un gros bulldozer, parce que c'est ce qu'on nous demande et c'est ce qu'il faut aussi pour changer les choses, et accepter de douter tout le temps. Un truc que je me répète souvent, c'est j'ai peur, mais j'y vais. Et je pense que ça définit beaucoup d'entrepreneurs qui doutent, mais ils vont quand même. Le complexe de l'imposteur, maintenant on a l'impression que c'est une expression un peu galvaudée parce que tout le monde l'utilise, mais en fait c'est plutôt un truc chouette. Enfin, moi je trouve ça cool que les gens se posent la question de est-ce que en fait je suis à ma place. Ouais, en fait, si on avait tous un peu moins d'ego sur nos sujets, on serait plus ouvert à la discussion, au fait de changer les choses. Donc, c'est plutôt une bonne chose, ce complexe de l'imposteur.
Et quand tu dis « j'ai peur, mais j'y vais », ce qu'il y a derrière, c'est l'optimisme malgré tout, sans faille, sur « j'y arriverai », la confiance en sa capacité à trouver des solutions. C'est quoi qu'il y a derrière ?
Bah non, c'est que si j'y vais pas, en fait, je vais le regretter, rien n'aura bougé, et en fait, vaut mieux avoir des remords que des regrets.
Si on n'y va pas, on ne sait pas.
Exactement.
Waouh ! Et maintenant, on va prendre une petite claque. Je crois qu'on part sur du perso.
Moi, la grosse claque, c'est la mort de mon père, donc juste avant de lancer Virgile. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur la façon dont je fais les choses aujourd'hui. Donc c'était la personne la plus importante dans ma vie. Et il y avait vraiment cette idée de « Ok, maintenant, comment tu fais pour être à la hauteur de ça ?» Mais par ailleurs aussi, il est mort d'un AVC à 69 ans, 10 jours après sa retraite, en ayant bossé énormément toute sa vie. Pour moi, il y a un peu ce sujet aussi de attention, la vie est courte, parce que finalement, là, j'ai la moitié de son âge quand il est mort. Donc, je me dis, waouh, il ne reste plus qu'une moitié. Donc, il va falloir faire les choses bien, parce que c'est court. Donc, c'est pas carpe diem, etc. Mais c'est en fait, tout ce que tu fais compte. tu es acteur, actrice de chaque journée, et donc il faut que ce soit délibéré, parce que en fait ce sera court, donc à un moment choisi.
Ça veut dire aussi profiter différemment?
Bah, ça veut dire essayer de profiter de chaque moment. Après, ça veut aussi... je trouve que c'est toujours ténu, parce que en fait, à quel point tu profites de l'instant et à quel point tu construis aussi pour du plus long terme. Donc, c'est essaye de profiter du voyage, mais surtout, sois délibéré. En fait, te laisse pas trop porter par l'externe. En fait, au final, je crois qu'on choisit tous. Et d'ailleurs, je crois que ce qu'on essaye de faire avec Virgile, c'est aussi de donner aux gens les moyens de choisir, les moyens de leur indépendance. Et il y a vraiment ce truc d'être acteur. Et donc, on en reparle, je crois qu'on en reparle demain, d'empowerment. Donc il y a
sur la scène de Vivatech.
Voilà, sur la scène de Vivatech. Et donc, il y a ce sujet d'empowerment, il est important. Et donc, en fait, j'essaye aussi de me le répéter chaque matin sur comment faire les choses. Après, on a toujours les coordonnées les plus mal chaussées. De temps en temps, je me dis, mais en fait, j'ai subi ce truc. Pourquoi j'ai fait ça?
Malheureusement, ça arrive même quand on est assez au fait sur son envie de contrôler sa vie, de faire ses choix. Écoute, c'est assez fou. Il y a 10 minutes, déjà il y a une demi-heure, j'allais te dire, ce que tu dis fait écho beaucoup au discours qu'on a eu hier avec Nicolas Cohen dans Core Store, quand tu parlais de méritocratie et d'éducation. Je ne sais plus sur quel autre sujet. À nouveau, je me suis dit, ça fait encore écho à ce qu'on évoquait avec Nicolas. Et à nouveau, ce qu'il nous racontait aussi, lui, hier, qu'il a perdu son papa très jeune, et ce que ça a aussi transformé dans sa vie, dans ses choix, dans son rapport au monde. Il l'a perdu plus jeune, donc c'est peut-être encore un peu différent. Mais bref, j'avais envie de le dire pour que tu écoutes particulièrement avec attention nos échanges.
Comme tu m'as dit que c'était un épisode qui était une énorme claque en plus au début.
Ah ouais, c'était une pure claque, mais du début à la fin, pareil. Très, très intéressant. Écoute, je te propose de se remettre dans la joie et la bonne humeur avec une carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
La parole est à toi.
Finalement, en fait, on va recouper un certain nombre de sujets qu'on a déjà évoqués ensemble, mais moi, je voulais parler d'empowerment. Quand on parle de Virgile, il y a ce sujet très... on investit jusqu'à 100 000 euros, mais au fond, nous, ce qui est super important, c'est ça, c'est un moyen, l'autre moyen, c'est l'éducation. Et pourquoi on fait tout ça? Parce que... aujourd'hui, on a vraiment ce sentiment super fort de... Et je pense que vous le voyez, vous le ressentez, la Vivatech autour, on n'arrête pas de parler d'impact. Tout le monde te parle d'impact. Les jeunes veulent en faire. Et c'est génial. Mais en fait, souvent, tu te poses un peu la question de comment tu commences, en fait, par toi-même à faire de l'impact et sur toi-même. Et c'est super difficile de penser à comment, en fait, tu vas gérer de l'impact quand tu es déjà en galère sur... au fait, il faut aussi que je paye mon loyer chaque mois et comment je construis, en fait, moi, mon propre chemin. Et tout notre sujet, en fait, avec Virgile et Spoon, c'est de se dire comment, en fait, tu deviens acteur, tu... arrête de payer ton loyer, donc tes 50% en fait de revenus chaque mois, t'arrêtes de les dilapider, de les donner à ton bailleur, tu commences à construire pour toi. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, tu commences à pouvoir construire un chemin qui est différent, qui est le tien, et c'est beaucoup plus facile d'aller t'occuper d'impact et d'aller sauver le monde quand t'es pas déjà en train
de... T'as les moyens.
Voilà. Et donc, tu sais, on parle souvent de genre... third world problems, quoi. C'est la pyramide de Maslow. À un moment, faut déjà satisfaire tes besoins primaires. On disait tout à l'heure, les jeunes sont des slasheurs. Ils veulent rester locataires. C'est faux, en fait. Ils veulent à la fois arriver à construire pour eux pour pouvoir construire pour le monde. Et donc, ce sujet d'empowerment financier, c'est pas une posture, c'est pas un sujet simplement financier, c'est pas un sujet simplement d'éducation, c'est un sujet de donner les moyens.
Après, juste parenthèse, il y a des jeunes slasheurs, il y a des jeunes qui n'ont pas envie...
Et on les embrasse.
Qui n'ont pas envie de ce que disait Olivier, de se mettre un fil à la patte ou qui ne pensent même pas. Et effectivement, ce n'est pas les jeunes, il y a des jeunes.
C'est vrai. Non, en fait, le fond du sujet, c'est de pouvoir donner le moyen à ceux qui veulent. Et après, c'est pareil, hein, la propriété. Nous, on dit, si tu veux pouvoir devenir propriétaire, il faut que tu puisses le faire. À un moment, en fait, si ton kiff, et ô combien je peux le comprendre aussi, c'est de te dire, bah, moi j'ai envie d'aller habiter un an à Madrid, un an à Sydney, j'ai envie de surfer, j'ai envie de bosser en fait 4 heures par jour, et finalement tout ça c'est un sujet pour plus tard, bah fine en fait, et c'est génial aussi. C'est juste, si ton choix est un peu différent, bah comment tu fais en fait pour avoir les outils pour pouvoir le faire, parce que le premier quelque part tu peux, le deuxième bah aujourd'hui ça joue contre toi et nous on donne les outils.
Si je peux me permettre, moi sur le sujet des jeunes et ce que tu viens de dire, il y a deux choses qui m'ont un peu, enfin qui m'inspirent et je voulais te le dire. C'est la première, c'est j'aime bien l'idée de pas mettre des catégories ou pas faire des sortes de grandes tendances et de grands traits. Et tu l'as très bien exprimé, je trouve. Et derrière ça, il y a cette idée de leur donner aussi de la liberté. Donc quelque part, en fait, j'aime bien l'idée de l'ouverture et de la perspective que tu permets aussi de donner en fait à cette génération. Et je trouve ça vraiment plutôt saisissant et inspirant.
Beaucoup. Et je vais juste ajouter un truc sur ce sujet-là parce que c'est marrant. On a beaucoup en fait de gens qui viennent nous voir chez Virgile pour devenir propriétaires au moment où ils peuvent, et au moment où ils ont en fait cet accès au crédit pour pouvoir ensuite se lancer dans des grandes aventures. Donc en fait, tu vas chercher ton crédit, tu vas chercher ton appart et ensuite tu lances ta boîte, tu pars voyager. Donc c'est aussi en fait, c'est s'acheter une liberté. Et tu te dis un fil à la patte vraiment, ou en fait est-ce que c'est plutôt une liberté? Et nous on a cette vision là de.
Tu prêches un convaincu. Ouais. Hein, c'est...
Une fois que tu as acheté ton appart, en fait tu peux tout faire.
J'aimerais juste, parce qu'on ne l'a pas abordé, on n'est pas trop rentré dans le sujet de la marque, mais vous avez monté une belle marque et j'aimerais savoir. Selon toi, quelles ont été les grandes étapes pour y arriver? Est-ce que ça a été d'un claquement de doigts? Généralement, non. Et vous avez la seconde marque avec Spoon, que je trouve intéressant aussi d'aborder, et comment tout ça cohabite ensemble?
C'est des super bonnes questions. Déjà, la marque, en fait, il y a quand même un sujet de aimer ça. Moi, j'aime bien les belles marques. Virgile, c'est quand même une solution B2C. On aide des gens qui ont finalement pas loin de mon âge, quoi, enfin entre 23 et 40 ans à devenir propriétaire. Je pense que aujourd'hui, bah, t'as un univers sur le financier, l'immobilier, qui peut être parfois un peu gris, un peu old school. Et donc, Virgile, c'est jaune, c'est un prénom. C'était important pour nous parce que t'as quelqu'un au bout du fil.
Qui investit avec toi aussi. Donc,
qui investit avec toi.
C'est ton coloc invisible.
Exactement. Et donc, on avait tendance à dire au début qu'on était l'épaule sur laquelle tu t'appuyais, en fait. Et il y a vraiment ce côté-là de... Enfin, faut que ce soit un humain. Faut que ce soit un humain qui te parle... normalement, et pas qu'ils te parlent avec des espèces d'acronymes bancaires super difficiles. Dans les autres marques que moi j'aime beaucoup en fait sur des sujets financiers, il y a Lydia. Je pense que ils ont vraiment compris aussi le, enfin bien avant nous d'ailleurs, le en fait le fond finalement c'est presque le même, mais tout est dans le message, tout est dans la façon de dire les choses, et tout est dans la façon surtout de mettre en fait ton acquéreur ou ton client au centre. En fait, tu es customer-centric, tu es client-centric, et donc tu lui parles comme tu aurais envie qu'on te parle. Et ça, c'est le fondement de la marque. Et après, tu mets aussi un peu de toi, Virgile. On essaye que ce soit joyeux, aventureux. Un truc qui est super important chez Virgile, c'est écrit sur nos murs, on dit que la vie est une aventure. Et il y a un peu de ça dans la marque de Virgile. Donc on essaye d'avoir ça, on l'a aussi sur Spoon. Donc tu le disais très justement, c'est deux marques différentes. En fait, alors, a posteriori, tout le monde nous pose plein de questions sur pourquoi, comment. Il y a eu beaucoup d'intuitifs là-dessus. On se disait, Spoon, quelque part, ça nous permet... déjà, Spoon, c'est la cuillère en argent que tu n'as pas nécessairement eue à la naissance, donc Spoon, la cuillère. Mais il y avait cette idée de se dire, en fait, en soi, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais c'est plus large que Virgile, et on n'a pas envie que ce soit simplement un média corporate où les gens le voient comme la newsletter de Virgile qui, quelque part, va donner des conseils intéressés pour devenir propriétaire. On dit qu'on est la newsletter de Virgile, c'est écrit, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui lisent Spoon, et peut-être que c'est un problème qu'on doit résoudre aussi, ne savent pas du tout qu'on est Virgile, ne savent pas ce que c'est que Virgile.
C'était la question.
C'est à la fois génial en termes de... c'est génial, on a créé deux très belles identités de marque. Bon, la réalité, c'est que Spoon, c'est un levier d'acquisition aussi majeur pour Virgile, et que c'est important en fait, d'avoir créé cette relation de confiance-là. Les choses sur lesquelles on travaille, c'est créer des ponts un poil plus évidents entre les deux, pour assumer encore plus le lien et aussi permettre aux gens qui connaissent Spoon mais pas encore Virgile de regarder ce qu'on fait.
C'est quoi les... un Spoon by Virgile en fait, en quelque part.
C'est Spoon by Virgile, exactement.
C'est quoi vos gros leviers d'acquisition aujourd'hui, ceux qui fonctionnent, ceux qui marchent moins?
Alors, le plus gros levier aujourd'hui, c'est vraiment le bouche à oreille, le referral. Ça, je pense que c'est un peu propre à tous les produits qui sont très distinctifs. Il y a un truc. Enfin, en fait, quand tu vas voir ta banque pour devenir propriétaire, bon, bah, tu vas voir ta banque, tu vas voir ta banque A, ta banque B, ta banque C. Bon, bah, ça reste une banque. Aujourd'hui, il n'y a que Virgile en fait qui t'apporte un apport, et il y a peu de choses qui sont plus virales que. C'est quoi le premier truc que tu fais quand t'as tes clés? T'invites tous tes potes, t'as pas de meubles, t'invites tes potes à manger une pizza sur ton carrelage, et t'as une petite bouteille de champagne chaude. Et donc ça, c'est quand même assez viral. C'est aussi le premier truc dont les gens parlent à la machine à café. Je pense que ça, c'est un truc dont on sous-estime un peu l'existence. Mais aujourd'hui, nous, on a des entreprises qui viennent nous voir pour qu'on aide leurs salariés à devenir propriétaires. Parce que c'est un vrai sujet aussi. Comment tu fais pour loger tes salariés? Comment, en fait, quand tu as des beaux bureaux en fait, dans Paris, tu fais pour que tu n'aies pas une fuite des talents? Donc, on a un truc qui s'appelle Virgile Talent, qui est aujourd'hui en fait, vraiment Virgile pour aider les entreprises à attirer leurs talents, à les garder, à rester propriétaires.
Et du coup, pardon, mais qui achète? L'entreprise, elle paye quoi? Elle paye les 3000 euros de service?
C'est un levier d'acquisition, en fait. Elle peut choisir, en fait, soit de pas du tout financer, mais juste de mettre en avant Virgile.
Ouais.
Soit elle choisit, en fait, de payer une partie ou tout des frais d'accompagnement. Et c'est un peu laissé...
Oui, parce qu'elle n'achète pas l'appart.
En fait, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est aussi une réponse à... t'as plein de chefs d'entreprise qui viennent nous voir en disant « Mais moi, j'aimerais aider mes salariés à devenir propriétaires, mais je suis prêt à me porter caution de leur prêt. » Ça devient compliqué, en fait, quand ton entreprise, chaud. Elle grandit. Quoi.
Ouais.
Donc, c'est génial pour eux de se dire qu'il y a un organisme tiers qui va à la fois venir faire des petites TEDx, des petits talks dans l'entreprise, des petits webinaires pour dire bon bah voilà comment il faut penser à l'achat d'appart, voilà un peu les pièges à éviter, et on est dispo pour en parler. Et d'ailleurs, votre entreprise a choisi de financer en fait les frais Virgile. Donc pour nous, c'est un levier d'acquisition clair. Après, comme tout le monde, on fait du digital, on a de l'acquisition sur Insta, sur Google, sur Facebook. Spoon est un gros levier d'acquisition. Et comme tous les sujets où tu as des innovations fortes, on essaye d'être quand même... on est en fait relativement présent dans les médias et ça, aujourd'hui, c'est une grosse source d'acquisition.
Un autre point dont on n'a pas parlé, c'est la concurrence. Comme vous êtes sur un modèle particulier... C'est vrai qu'en France, je n'ai pas vu, mais peut-être que certains se lancent ou sont lancés en parallèle. Et à l'étranger, est-ce qu'il y a des modèles comparables?
En fait, on a tendance à dire que notre plus gros concurrent et le meilleur, et celui devant lequel on s'efface bien volontiers, c'est l'apport familial. En vrai, si tu as suffisamment d'apport familial et que tu peux acheter exactement l'appartement de tes rêves sans Virgile, bon, en vrai, il y a encore des gens qui, malgré tout ça, font appel à nous pour tout l'accompagnement et le service. Mais ça, c'est le premier point. Ensuite, nous, on avait regardé, quand on a construit Virgile, ce qui se faisait aux US et aux UK, qui sont souvent précurseurs sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un problème limité à la France. C'est juste un problème de grandes villes, de métropoles et de comment en fait, aider les jeunes à passer la seconde. Et donc, tu as des modèles UK-US, mais ils sont assez différents. Et souvent, ils sont un peu plus prédatoriales pour les acquéreurs. Après, c'est aussi que c'est très lié.
C'est-à-dire
tu deviens moins propriétaire à la fin. Et ça, c'est pas forcément. C'est moins notre idée. Et puis après, ce qui est.
C'est pas le même partage de valeurs, c'est ça?
Exactement. Okay. Et ce qui n'est pas totalement lié, c'est aussi. Enfin, t'as pas le même système juridique, t'as pas le même système bancaire.
Évidemment.
Des pays ouais. avec des taux variables. Enfin, c'est pas du tout les mêmes systèmes. Mais donc. Il y a beaucoup de gens qui essayent de résoudre ce problème-là. Aujourd'hui, sur ce que fait Virgile, aujourd'hui, on est les seuls. Je sais qu'il y en a qui s'y sont essayés, mais je crois qu'ils se sont cassés les dents assez vite. Parce que ce qui est difficile aussi dans ce qu'on fait, c'est qu'on réunit
France,
plusieurs métiers.
Ouais.
Et en fait, on réunit des métiers très B2C avec quand même des métiers très financiers. Et c'est assez rare d'avoir ces deux expertises au même endroit. On voit de plus en plus de modèles alternatifs qui se posent des questions sur comment faire pour favoriser l'accès des jeunes à la propriété, mais encore rien qui a véritablement émergé.
Il y a un sujet du coup d'aller vite aussi peut-être en Europe, dans les grandes capitales. ont des problèmes assez similaires.
Oui, il y a clairement un sujet. Là, on lance expansion géographique en France. Et évidemment, l'étape d'après est évidente.
Bien tenté. Ouais. Hein.
On reviendra avec plaisir.
Côté recité, si tu veux. Hein. Lyon, Marseille.
J'ai retenu Belle-Île.
J'allais passer à Madrid, Lisbonne, Londres.
Rome aussi, si tu veux bien.
On va regarder en fait dans l'équipe qui a des préférences pour quelle ville et puis on va dispatcher comme ça.
Il y a
un sujet européen, c'est clair. Ouais. Et nous d'ailleurs, dans nos investisseurs, c'est des investisseurs européens. Vous l'avez remarqué, Virgile, c'est sans eux. C'est parce que tout de suite, on s'est dit que de toute façon, ce serait un problème européen, quoi qu'il arrive. Donc évidemment, il y a l'idée en fait d'aller répondre à ce problème partout où il se pose en Europe et en fait, il se pose dans toutes les grandes villes, donc le territoire est assez large et on a hâte d'aller s'étendre en Europe.
D'aller tester. Après, tu n'as pas forcément besoin des mêmes... tu as besoin en fait de compétences complémentaires si tu vas aller vers des pays européens, donc là tu vas devoir aussi muscler encore un peu ton équipe ou en tout cas la faire évoluer, la faire grandir. D'ailleurs, tu parles souvent de faire grandir ton équipe, je trouve, dans les différents sujets ou interviews. Et comment tu vois un peu cette évolution là et est-ce que tu arrives facilement à attirer les talents pour construire cette équipe?
Pareil, c'est une super question. Ce qui est important chez Virgile, c'est oui, le produit est génial, la solution est géniale, mais l'équipe est encore plus formidable.
Alors, qu'est-ce qui n'est pas bien, du coup?
Je préférais faire un peu plus de surf à Belle-Île. Voilà.
À deux noms.
Peut-être qu'on travaille un poil trop. Et puis on rate plein de trucs. Hein. Donc on se trompe, on réessaye. Je dis, au global, l'équipe est super. Après, on se plante souvent. Le fond, c'est... On se l'est déjà dit, il y a cette idée de la vie est courte. Alors du coup, tu vas passer quand même une grosse majorité de ta vie au bureau. Tu as quand même envie de la passer avec des gens qui te donnent envie d'être là. Donc moi, ce qui m'inspire, c'est les gens intelligents, les gens qui veulent bien faire. Et j'essaye de recruter des gens dont je me dis, aujourd'hui ou demain, ils sont soit déjà, soit ils seront meilleurs que moi. Donc il y a beaucoup de gens meilleurs que moi dans l'équipe. L'idée, c'est vraiment de se dire, un de nos plus gros enjeux d'ailleurs, c'est tu grandis, tu t'étends. Comment tu fais pour garder cette qualité, cet engagement au fur et à mesure que tu grandis? Et je suis pas du tout la seule, je pense, à ce micro à citer ça. Pense que c'est une problématique commune. C'est en fait, nous, on est petits et on est heureux d'être petits parce que je pense que c'est bien d'être une petite équipe de rugby bien concentrée. On va grandir. Mon but, c'est pas d'arriver à 2000 salariés, mais c'est de me dire, en fait, j'ai une équipe qui, à 27, à 50, ou à 100, ou à 200, garde le même engagement, la même fraîcheur, la même envie, la même intelligence. Et ça, effectivement, quand je me dis, c'est quoi mon job, au final, c'est ça, mon job.
On te souhaite d'arriver jusqu'au 200 en arrivant à garder l'état d'esprit, la culture de boîte.
On y travaille.
Des 27. Avant de nous quitter, Saskia, pardon. Que je voulais t'amener. On est dans un format un peu nouveau là aujourd'hui avec toi. T'es pas au Next 40, t'es pas une des six stars du Next 40. On avait envie de t'avoir pour parler de Virgile parce que t'es une belle entrepreneur de la tech. On fait ça à Vivatech. On va passer demain sur scène ensemble et on trouvait ton histoire, on avait envie de la partager au micro. Donc je ne sais pas si on donnera la parole à tes choix Sista, mais tu m'as mis un petit mot avec toute une liste de femmes incroyables et j'aurais trouvé dommage de ne pas à minima pouvoir te laisser dire un mot là-dessus.
Merci. Et effectivement, j'en ai mis quelques-unes. Je pense que c'est cool quand on a l'occasion en fait de pouvoir les mettre en valeur. Donc j'en profite un peu. Donc déjà, effectivement, je salue toute l'équipe de Sista. Je trouve qu'elles font un boulot extraordinaire, que c'est des entrepreneurs de dingue. Donc Céline Lazor, Tatiana Jama, Alice Gross qui est aujourd'hui chez Sista Fund, Alex Harris que je connais un peu moins, et par ailleurs des entrepreneurs de l'espace. Il y a Colombe Mandula à la tête de Simundia, il y a Chloé Hermary à la tête de Ada Tech School et il y a Jade Francine à la tête de WeMaintain et qui est maintenant au bord de France Digital, si je ne dis pas de bêtises, qui sont vraiment des entrepreneurs hyper inspirantes, hyper calées, hyper gros bras, mais aussi des potes.
Et ça fait du bien de le dire.
C'est très important de le dire, je pense.
Alors vraiment, parenthèse très rapide, mais les potes entrepreneurs, des fois on est dans son guidon, etc. À quel point c'est précieux?
C'est super précieux. Je crois que t'as toujours la tête dans le guidon de quelque chose. Un moment, c'est ta boîte à l'intérieur. Un moment, ça peut être ta vie perso. Tu veux te dire, en fait, j'ai besoin là de passer du temps un peu à me regrouper avec les miens. Un moment, ça peut être, je veux aller apprendre plein de nouvelles choses. Et un moment, en fait, c'est, j'ai besoin là d'être avec des entrepreneurs parce que je veux leur partager toutes mes galères. Le fait de pouvoir appeler quelqu'un en disant voilà ce qui se passe, on a merdé, ou je sais pas comment gérer ce truc là, comment toi t'as fait, comment toi tu ferais, ou qu'est-ce que t'en penses, ou simplement de pouvoir vider ton sac de façon extensive, sans filtre, ouais, c'est hyper précieux. Donc un des trucs quand même que moi je dis tout le temps, c'est faut s'entourer, quoi.
Eh ben, on était bien entouré aujourd'hui sur le plateau de 40 nuances de Next, la Vivatech. Un immense merci à toi,
merci
Saskia.
Merci pour votre accueil.
Bravo à toi et ton associé, à vos équipes, pour là où vous avez amené Virgile aujourd'hui, pour la vision demain. Tu seras obligé de revenir pour nous dire où vous en êtes en Europe.
Avec plaisir.
Dans quelques temps, donc on se donne rendez-vous dans 3 mois.
Exactement.
Pas très loin. Un immense merci à toi, Valérie. Comme toujours, nos retrouvailles à Vivatech font plaisir à ce micro. À très bientôt à tous.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.